Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Von Manstein, le stratège du Troisième Reich, Pierre Servant propose une biographie militaire et politique d'Erich von Manstein, maréchal allemand souvent tenu pour l'un des esprits opérationnels les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. Paru chez Perrin, dans une collection consacrée aux maîtres de guerre, l'ouvrage suit l'itinéraire d'un officier issu de l'aristocratie prussienne, formé dans le cadre rigoureux de l'armée impériale, puis acteur de la Reichswehr de Weimar. Servent s'attache surtout à expliquer ce qui distingue Manstein comme concepteur et conducteur d'opérations, aptitude à anticiper les réactions adverses. Goût de la manœuvre indirecte, articulation de la vitesse, de la surprise et de la prise de risque. La biographie ne réduit toutefois pas son sujet à ses succès militaires. Elle replace sa carrière dans les rapports conflictuels avec Hitler, la culture de commandement du Troisième Reich, la guerre à l'Est et l'après-guerre. Le livre vise ainsi à éclairer un chef de guerre d'exception sans dissocier son parcours du régime qu'il a servi. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une formation prussienne qui éclaire la méthode et les limites de Manstein. Servent inscrit Manstein dans la continuité de la caste militaire prussienne plutôt que dans le seul contexte du nazisme. Né Erich von Lewinsky, puis adopté dans la famille von Manstein, il appartient à un milieu où le service des armes, la discipline, l'état-major et le sens de la hiérarchie structurent très tôt les trajectoires. Cette origine permet de comprendre la place centrale qu'il accorde à la préparation intellectuelle de la guerre. Une opération n'est pas seulement un choc de force, mais un problème de temps, d'espace, de logistique et de volonté adverse. Son maintien dans la Reichswehr, armée réduite par le traité de Versailles, le rattache aussi à un corps d'officiers contraint de préserver ses compétences dans un cadre étroit. Cette expérience favorise une culture de la planification et de l'économie des moyens. Mais le cadre social et professionnel qui nourrit ces qualités comporte une limite décisive, il tend à séparer le jugement militaire du jugement politique et moral. Le livre invite donc à ne pas confondre compétences opérationnelles et lucidité sur le pouvoir servi. L'aristocrate indépendant, parfois méfiant envers Hitler, demeure néanmoins un officier engagé dans la guerre de conquête menée par le Reich. Deuxièmement, le plan de 1940, la manœuvre par les Ardennes comme signature stratégique. L'un des apports majeurs associés à Manstein est son rôle dans la conception du plan allemand contre la France en 1940. Servent met en avant une logique différente d'une offensive frontale, reproduisant les schémas de 1914 au lieu de faire de l'effort principal en Belgique. La manœuvre envisage une percée par les Ardennes, suivie d'une poussée rapide vers la Manche. L'enjeu n'est pas seulement de contourner des positions défensives. Il consiste à désorganiser le système de décision allié en frappant là où l'adversaire estime le risque secondaire, puis en séparant les armées engagées au nord de leurs arrières. Cette conception illustre les éléments que l'ouvrage attribue au talent de Manstein, se représenter le raisonnement ennemi, rechercher l'effet de surprise et accepter un risque calculé. La vitesse des formations blindées n'a de sens que parce qu'elle sert une intention opérative précise, créer une rupture que l'ennemi ne peut plus réparer à temps. Le livre ne présente donc pas la Blitzkrieg comme une formule magique ou une victoire mécanique de la technologie. Elle apparaît comme l'emploi coordonné de moyens mobiles, de l'initiative du commandement et d'une lecture aiguë des vulnérabilités adverses. La réussite de 1940 explique largement la stature acquise par Manstein auprès du régime. Troisièmement, Sébastopol et le front de l'Est conduire des opérations dans la guerre d'usure, la campagne à l'Est occupe une place essentielle dans le portrait de Manstein, notamment à travers la prise de Sébastopol qui contribue à son élévation au maréchalat. Cet épisode permet d'observer une autre facette de son art militaire. À la différence de la percée de 1940, la conquête de la forteresse de Crimée impose une préparation méthodique. La concentration de moyens lourds et la coordination d'attaques contre un dispositif défensif puissant. Servent montre ainsi que la réputation de Manstein ne tient pas uniquement au mouvement rapide, elle repose également sur sa capacité à adapter la manœuvre à une situation de siège et à intégrer les contraintes du terrain, du feu et du ravitaillement. Sur le front soviétique, il devient aussi l'un des commandants auxquels Hitler recourt lorsque les équilibres se dégradent. Cette fonction de pompier stratégique souligne son aptitude à rétablir localement une situation compromise, mais révèle simultanément les impasses du commandement allemand. Des contre-mouvements efficaces ne pouvaient annuler l'épuisement des ressources, l'étendue du front, la capacité de régénération soviétique et les choix politiques du régime. L'intérêt analytique du livre est de faire sentir cette tension, le génie opérationnel peut gagner du temps, reprendre l'initiative ou limiter un désastre, sans pouvoir transformer à lui seul une guerre devenue structurellement défavorable. Quatrièmement, le conflit avec Hitler, autonomie du commandement contre interventionnisme idéologique. la relation entre Manstein et Hitler constitue un axe indispensable pour comprendre sa carrière. L'ouvrage décrit un officier à l'esprit affirmé, capable de défendre des options militaires propres face à un Führer qui intervient toujours davantage dans la conduite des opérations. Manstein n'est pas un opposant politique au sens plein du terme, son désaccord porte principalement sur la stratégie, la liberté de manœuvre et l'évaluation des réalités militaires. Cette distinction est fondamentale. Elle évite de convertir toute critique professionnelle d'Hitler en résistance au nazisme. Les divergences concernent notamment la nécessité de disposer de réserves, de pouvoir raccourcir un front ou de pratiquer des replis lorsque la situation l'exige, plutôt que de tenir des positions à tout prix. Dans cette opposition se rencontrent deux conceptions du commandement, l'une fondée sur l'analyse des rapports de force et la souplesse opérative, l'autre soumise à la volonté, au prestige et à l'interdit idéologique de céder du terrain. L'éviction de Manstein en 1944 marque les limites de son influence, malgré son prestige. Serve met ainsi en évidence un paradoxe, le régime valorise ses chefs les plus compétents tant qu'ils produisent des victoires. Mais l'autonomie intellectuelle devient suspecte dès lors qu'elle contredit les certitudes du dictateur. La qualité stratégique n'accorde donc aucune indépendance durable dans une dictature personnelle. En dernier lieu, évaluer un brillant chef de guerre sans effacer sa responsabilité dans le système nazi. Le livre se distingue par l'attention portée au double statut de Manstein, stratège admiré et serviteur d'un régime criminel. Son efficacité militaire ne dispense pas d'examiner le cadre politique de ses campagnes, particulièrement à l'Est, où la guerre allemande fut une guerre de conquête, de destruction et d'extermination. Cette exigence critique est d'autant plus importante que Manstein participa après-guerre à la construction d'une image valorisante de la Wehrmacht, présentant volontiers l'armée comme séparée des crimes nazis. Or, une biographie sérieuse doit résister à cette dissociation commode. Les sources disponibles soulignent que Serve ne lui attribue pas une véritable réflexion rétrospective sur la portée morale de son action. Manstein est décrit comme un piètre politique moins parce qu'il serait extérieur aux affaires du régime que parce que son raisonnement tend à privilégier l'efficacité professionnelle, l'honneur militaire et les querelles de commandement au détriment des implications politiques et humaines de la guerre menée. Son procès et son emprisonnement après 1945, puis son rôle de conseiller écouté lors de la reconstitution militaire ouest-allemande, prolongent cette question de mémoire. L'ouvrage fournit ainsi un cadre utile pour analyser comment une expertise réelle peut coexister avec des aveuglements, des accommodements et des récits justificatifs. Il refuse que l'admiration technique devienne une absolution historique. En conclusion, cet ouvrage s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire militaire qui veulent comprendre les mécanismes concrets de la guerre de mouvement allemande, de la campagne de France à la guerre germano-soviétique. Il intéressera également les étudiants et les lecteurs soucieux d'analyser les rapports entre stratégie, commandement et pouvoir dictatorial. Son bénéfice intellectuel principal est de donner des repères pour distinguer plusieurs niveaux d'analyse souvent confondus, l'habileté tactique, la conception opérative, la décision stratégique et la responsabilité politique. Manstein y apparaît non comme une légende militaire à célébrer, ni comme une figure dont le talent rendrait toute étude impossible, mais comme un objet historique complexe. Pierre Serve met à profit sa connaissance des questions de défense et de stratégie pour rendre intelligibles les choix de commandement, sans perdre de vue l'environnement du Troisième Reich, comparé aux récits centrés sur les seules batailles ou aux portraits hagiographiques de généraux allemands. Le livre se démarque par cette articulation entre biographie, analyse militaire et mise en contexte politique. Il permet de comprendre pourquoi Manstein a acquis une réputation durable de grand manœuvrier, notamment par son rôle dans le plan de 1940 et ses opérations sur le front de l'Est, tout en rappelant les limites profondes de cette réputation. C'est donc une lecture particulièrement utile pour aborder la Seconde Guerre mondiale avec précision, la compétence technique y est étudiée. Mais elle n'est jamais séparée des finalités et des conséquences du régime auquel elle a servi. Si vous souhaitez soutenir Pierre Servant, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.